Alors, on va essayer de continuer un peu sur le Notre Père aujourd'hui. Mais avant d'aller sur le second verset, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le mot Yid Kadesh. Parce que nous n'avions fait que le survoler à Guémené, alors qu'il mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attention de notre part. Yid Kadesh, c'est que soit sanctifié, que soit mis à part, que soit consacré ton nom. Dans la Bible, la première fois où il est question de Yid Kadesh, c'est ce que je vous avais dit à Guémené. C'est lorsque Dieu met à part le septième jour. Ce septième jour, c'est donc un jour très spécial. Il ne peut en aucun cas être considéré comme les autres jours. En Genèse 2, verset 3, Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Et tout comme Dieu a mis à part ce septième jour et le proclama saint pour se reposer de l'œuvre qu'il avait produite et organisée, nous devons, nous, mettre son nom à part et nous reposer sur lui, lui obéir en respectant ce septième jour, le Shabbat. Pour aller plus loin, plus profondément dans la signification de ce mot, Yid Kadesh, en hébreu, la première lettre d'un mot est la plus importante. On dit de cette lettre qu'elle domine le mot. Et le premier mot de la première lettre de Yid Kadesh, c'est le yod. Le yod, c'est juste une petite virgule. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et Yeshua parle d'elle dans Matthieu 5, versets 17 à 19. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir. Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iode ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En Luc 16, 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Là aussi, il est question du iode. Et pourquoi il ne faut pas l'enlever? À votre avis, pourquoi il ne faut pas enlever ce iode? En aucun cas. Tout simplement parce qu'elle représente la main de Dieu. Il y a 1500 ans avant Jésus-Christ, on l'écrivait comme ça et comme ça. Il est mis là. Comme ça. Ça s'écrivait comme ça. Ça représentait alors la main, mais aussi le bras de Dieu.
Tiens, notable, regarde.
Oh, magnifique.
Ah si,
magnifique. Et donc, elle s'écrivait comme ça. Parce qu'elle représente la main. Et le bras du coup. Et aujourd'hui, on l'écrit comme ça. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Elle est la première lettre du nom de Yeshua. Yeshua. Qu'on a traduit par Jésus. Et si on l'a traduit par Jésus, c'est parce que justement, cette lettre-là, elle est intraduisible. Donc dans la traduction, elle manque. C'est bon. Yeshua, eh bien notre aide au quotidien, c'est bien à lui qu'on fait appel. Toujours, dans tous les cas, il est notre salut. Et alors, regardez bien, quand on rajoute, on va le réécrire. On rajoute ça, le hé, ça c'est le hé. Quand on rajoute le hé à Yeshua, c'est plus le nom, c'est le mot Yeshua. Et le mot Yeshua, ça veut dire aide, secours, salut. La lettre hé, cette lettre là, elle représente la vie, le mont, la montagne, la multiplication, mais aussi l'alliance de Dieu. Elle est considérée comme étant un signe divin, une marque de Dieu. C'est cette lettre que Dieu a rajoutée au nom d'Abraham, père éminent, qui devient alors Abraham, père d'une multitude. Dans Genèse 17, 4, 5, « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. » On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est par cette lettre que Dieu a changé aussi le nom de Sarai en Sarah. Dans Genèse 17, 15, Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, son nom sera Sarah. » Afin qu'elle engendre des nations, Genèse 17, 16, je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. C'est cette lettre-là, qui est rajoutée aussi à Adam. Lorsque Dieu le plonge dans un sommeil, afin de créer la femme avec l'une de ses côtes, Adam devient une première fois, pour cet instant-là, Adam. Adam. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le bleu là.
Bah, oui, bon, tu es devant pour l'instant.
Oui. Hein?
Tu es devant pour l'instant, c'est pour ça.
Adam. Ça, c'est Adam. Et quand Dieu le plonge dans un sommeil, il lui rajoute le hé. Le chapitre 15 de Josué concerne l'histoire, le territoire accordé par Dieu à la tribu des fils de Juda. Le lot pour la tribu des fils. Non, je me suis trompée, il y a autre chose avant. Pardon. Oui. Donc après avoir plongé Adam dans un sommeil, pour cet instant-là, il s'appelait donc Adam, et non plus Adam. Et ça ne s'arrête pas là. Une seconde fois au verset 20, chapitre 3 de la Genèse, lors de la chute. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, qui veut dire vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Là aussi, il reprend le nom Ha-Adam, et non pas Adam. On va revenir sur la lettre Yod, la plus petite lettre. La lettre Yod au début d'un nom propre, ou la présence de la lettre E, celle-là et celle-là, dans un mot, démontre la volonté de Dieu de venir vivre en nous, à l'intérieur de nous. Elle est la première lettre du mot jour, yom. Yom. En français. Yeshua dit et montre à ses disciples et à nous-mêmes qu'il faut faire les choses tant qu'il fait jour. Dans Jean 9, 4. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. La lettre Yod, elle est la première lettre du nom de Jérusalem, Yerushalayim, l'endroit sur terre où Dieu lui-même a choisi d'établir son temple. Les humains peuvent construire ce qu'ils veulent autour, les églises, les mosquées, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'un temple de Dieu, établi sur ce lieu, selon sa volonté. Et c'est là, le chapitre 15 de Josué concerne le territoire accordé par Dieu à la tribu des fils de Juda. Verset 15, 1. Chapitre 15, verset 1. Le lot pour la tribu des fils de Juda, clan par clan, s'étendait vers la frontière d'Édom au désert de Tsin, au midi, à l'extrême sud. Et dans Josué 15, 8. Dans Josué 15, 63 aussi, vous le retrouvez. Après, pour aller plus loin encore, avec ces deux lettres, le yod, le he, le vav, et re, le nom divin. Le nom divin. Le yod, on a vu, c'est sa main. Le he, c'est la vie. Il est là, et il revient là. Et entre les deux, on a le Vav. Et à votre avis, c'est quoi le Vav? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux vies?
Un cœur.
Il y a Yeshua. C'est le clou. Par sa main, il nous a donné la vie. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Et la vie. Il nous a donné la vie. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Le Vav, c'est le clou. Par le clou de la crucifixion, il a racheté nos péchés. Il nous a pardonné nos iniquités. Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et par sa crucifixion, il nous a redonné la vie, mais pas n'importe laquelle. Il nous a redonné la vie éternelle, celle que nous avons perdue à l'origine, par notre désobéissance. Dans Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen.
Amen.
On va revenir sur Yid Kadesh. La deuxième lettre de Yid Kadesh, peut-être vous l'écrivez, Yid Kadesh. Ça vous dit?
Oui.
Yid Kadesh.
C'est notre père.
description de notre Père.
C'est?
Ça veut dire notre Père.
Non.
Non.
Yid Kadesh, c'est sanctifié, que soit sanctifié.
D'accord.
Ah, d'accord. Que soit sanctifié, que soit mis à part, que soit consacré. D'accord. On vient donc de voir le Yod. Le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Yeshua parle d'elle aussi. Je suis le Halef et le Tav. Le Halef, la première lettre. Et le Tav, la dernière lettre. Dans Apocalypse 1:8, je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 21:6, il me dit, c'est fait, c'est moi qui suis le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Dans Apocalypse 22:13, le Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi.
C'est ce qui est traduit en alpha et omega.
Oui, tout à fait. Donc la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est le Aleph. La dernière lettre, c'est le Tav.
Tu peux l'écrire Aleph?
Aleph.
Alors, oui, là, ton enfant,
en français.
Ouais, le
PH. D'accord.
Okay.
Et le
taille.
Le taille.
Tav. Il y a un seul mot. Vous pouvez regarder dans une Bible en hébreu, dans toute la Bible, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle. Il n'y a qu'un mot composé de ces deux lettres. C'est le het. Le het, pour avoir le son het, on a juste ces deux lettres-là. Ça, c'est le i, qui permet d'avoir le son i. Het. Cette particule est considérée comme prophétique parce que justement, elle n'est composée que de la première et de la dernière lettre. Elle est dès le début, dans la première phrase, Genèse 1, verset 1, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim, het hashamayim, vehet haaretz. Le Tav dans l'alphabet hébreu représente le signe, la marque, la signature. On en parle, il en parle aussi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, les derniers temps. Il va falloir que ces messagers attendent qui viennent marquer son peuple de son signe, de son sceau. C'est le Tav. C'est le signe. C'est sa signature. Dans Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il nous a donné énormément de signes à travers toute la Bible, du début jusqu'à la fin, dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance. Les évangiles nous montrent que les miracles accomplis par Yeshua sont le signe que Dieu agit par lui, qu'il ne pourrait pas agir s'il n'était pas en communion avec Dieu. Ils indiquent aussi que la guérison n'est pas un geste magique et automatique. La guérison pleine et totale n'est rendue possible que par la reconnaissance de la foi. Dans Matthieu 16, versets 1 à 4, les pharisiens et les sadducéens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. » Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Ce verset, ne serait-ce pas une invitation à relire Jonas et à se poser des questions sur nous-mêmes? Ça rejoint un peu ta vision, Michel. Où en sommes-nous, nous-mêmes, en tant que Jonas? En route pour prendre le bateau? Sur le bateau à dormir tranquillement? En pleine tempête? Dans le ventre du poisson? En route vers Ninive? Où en sommes-nous sur notre chemin vers Dieu? Chacun fera ce qu'il a envie. Kadesh, parce que it, il y a it et Kadesh. Et Kadesh, c'est composé du kof, du dalet et du shin. Quand il y a un point comme ça, là, c'est, ça se dit shin. Et quand vous avez la même lettre, mais avec le point là, ça se dit sin. Là, c'est Kadesh, donc on met le. Quand c'est S, quand on a le son S, il se met là. Alors le kof, la signification du kof en hébreu, pour l'alphabet hébreu, le kof c'est l'imitateur, le singe. Le dalet, c'est la porte. Il représente la porte. Mais qui est la porte qui mène à Dieu? Sinon Yeshua lui-même. Par son sacrifice à la croix, il nous a lavé de nos péchés. Mais par la même occasion, il nous a offert l'ouverture de cette porte menant à Dieu, à quiconque le reconnaîtrait, à son peuple, le peuple juif, mais aussi à nous autres païens qui étions païens. Le shin, ou sin, c'est une dent, une pointe. Ça veut dire aussi haïr, mépriser et détester. Et là où c'est assez surprenant, elle est pleine de surprises, la langue hébraïque. Pleine de surprises. Elle s'écrit avec trois barres. Deux, trois. Il y a trois barres. Elle représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ressemble à un arc avec sa flèche au milieu, dirigée vers le haut. Et l'arc, il est le symbole de quoi? L'arc, il est le symbole de la puissance de la prière, mais aussi de l'alliance de Dieu. Les trois lettres hébraïques qui forment la racine du mot sanctifié et qui ont donné aussi Kodesh. Kodesh. Kodesh, c'est la consécration, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Après, on a aussi Kadosh. Et pour faire le haut de Kadosh, vous avez vu ce qu'il faut mettre? Le Vav. Le Vav, c'est le clou de la crucifixion. Pour faire Kadosh, il faut rajouter le Vav. Et Kadosh, ça veut dire sacré, saint. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien tout ça. La signification du mot hébraïque, du mot Kadesh, c'est mettre à part, c'est consacrer, c'est sanctifier, afin de nous imprégner de toute la valeur de ce verbe et répondre aux questions que l'on pourrait se poser à son sujet. J'invite tout le monde à ouvrir sa Bible et à regarder les réponses qu'on peut y trouver, les réponses que Dieu nous donne dans la Bible. Qu'est-ce que la sanctification ? C'est un truc qu'on sort du placard le dimanche matin pour venir au culte? C'est quoi exactement la sanctification? C'est énormément de choses. Moi, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé. J'ai demandé à Dieu de me guider, de me montrer. La sanctification est symbolisée par la fête des pains sans levain. C'est la première chose qu'il m'a montré. Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Afin que nous soyons des corps, âme et esprit devenus comme les pains sans levain, une trinité sanctifiée. » Dans Lévitique 23, 6, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, afin d'être saints. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 17, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Dans Lévitique 19, 2, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Tu leur diras, vous serez consacrés. Oui, je suis consacré, moi, Adonai, votre Elohim. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, c'est aussi se mettre à part soi-même, s'examiner profondément. C'est reconnaître nos erreurs, nos désobéissances et se vider de tout le vin. Pourquoi est-ce qu'il faut être sanctifié? C'est une question que je me suis posée. Pourquoi être sanctifié?
Soyez
saints car je suis saint.
Sans sanctification, ni le verset, ni le verra Dieu.
Absolument. Mais ceci parce que la sanctification, c'est la démonstration de la justice de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est aussi pour se préparer pour le jour du Seigneur, à la gloire à venir par la sanctification. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Pourquoi faut-il sanctifier son nom? Parce que c'est la communion avec Yeshua dans ses souffrances que découle la sanctification. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » C'est par la prière que nous sommes en communion avec Dieu, avec Yeshua, avec la Roi HaKodesh. La Roi HaKodesh, c'est le Saint-Esprit. En français, c'est masculin, en hébreu, c'est féminin. Yitkadesh Shimra nous invite donc à mettre son nom à part, à mettre Adonai Elohim à part. Adonai, Dieu de la terre, Elohim, Dieu du ciel. Ils ne font qu'un. Ce n'est pas soit Adonai, soit Elohim. C'est Adonai Elohim. Relions les deux. Réunifions les deux. Adonai Elohim. à prendre un temps à part pour que nous prenions conscience que venir devant Dieu implique certaines choses de notre part. Premièrement, que nous nous examinions avant de vouloir enlever la paille dans l'œil du voisin. Si nous commencions par enlever la poutre qui est dans le nôtre, on ferait un sacré pas vers Dieu. Que nous abandonnions toute parole ou pensée de médisance ou blessante vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi des autres. De quel droit allons-nous dire à quelqu'un « Sors le nez de ta Bible, tu avances trop vite, je ne te suis plus. » Ou « Cesse de faire telle chose, ou cesse d'aller voir telle personne. » Si ces choses ou ces personnes ne sont pas interdites par Dieu lui-même, montrer à un frère ou à une sœur qu'il ou elle prend un mauvais chemin en faisant telle chose ou en fréquentant telle personne, en lui rappelant les paroles de Dieu, de Yeshua, ok. Sinon, abstenons-nous de tout commentaire. Ça nous invite aussi à ce que nous arrêtions de montrer bonne figure à nos semblables en nous donnant une impression de sainteté. Yeshua lui-même nous l'ordonne dans Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ça nous invite aussi à considérer ou reconsidérer sérieusement nos voies dans toutes les promesses faites devant Dieu. Par le baptême d'eau, nous lui faisons la promesse de le suivre. Pour le suivre vraiment, il faut lui obéir. Pour lui obéir sans défaillir, il nous a transmis la Bible, sa parole. Un doute ? Ouvrons nos Bibles. Une question ? Ouvrons nos Bibles. Un souci ? Ouvrons nos Bibles. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher à droite ou à gauche quelqu'un qui aura reçu l'onction pour nous. Yeshua le dit aussi. Nous n'appelez personne père. Vous n'avez qu'un seul père. C'est Dieu. N'appelez personne docteur. Vous n'avez qu'un seul docteur. C'est Yeshua. Un seul médecin. Dieu. Un seul psychologue. Yeshua. Un seul guide. La Roi HaKodesh. Le Saint-Esprit. Dans Matthieu 5, versets 17 à 20, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iode ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça nous invite aussi à réaliser que c'est un péché de vouloir se réfugier derrière le sang précieux de Yeshua sans avoir la moindre intention de changer dans nos habitudes et dans nos attitudes. Le sang du sacrifice de Yeshua n'est parfait que dans la repentance de nos péchés. Yid Kadesh Shimra, c'est comme nous le dit Yeshua lui-même dans Jean 12, 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va s'arrêter sur le Yid Kadesh pour aujourd'hui parce que je voudrais vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière et ça un peu appuyer tout ça. La semaine dernière, j'ai fait un cauchemar, mais un cauchemar monstrueux. Ça a été monstrueux, mais ça s'est fini. Merci Seigneur, tu es présent, Mia. H24, il est là. Mon cauchemar, il y avait quatre personnes avec moi. Mais il y avait trois personnes. Un homme qui se battait contre un couple. Et ce couple voulait absolument l'entraîner dans quelque chose d'immonde. Mais vraiment, c'était vraiment horrible. Horrible. Et moi, j'étais là. Et j'essayais de ramener cette personne. Non, ne les suis pas. Reviens par ici. Reviens sur le chemin. La lumière, elle est là. Elle n'est pas là-bas. Là-bas, c'est une fausse lumière. Elle te conduit direct dans les ténèbres. Ne va pas là-bas. Et d'un coup, j'ai senti mes cheveux, mais comme si ce couple m'avait prise par les cheveux et me tirait vers le bas, Mais ça m'a fait vraiment mal. Vraiment mal. Et là, je me suis entendue crier « Yeshua ! Yeshua !» Et les deux qui me tiraient par les cheveux, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont partis, mais... une vitesse affolante. Yeshua, il est avec nous. Il nous protège. Quand on donne sa vie à Yeshua... on la donne entièrement, pas à moitié. Pas seulement pour nos petits bobos quotidiens. Il n'est pas là que pour ça. Il est là pour bien autre chose. Il faut qu'on en prenne conscience. Les temps approchent. Il faut arrêter de jouer avec tout ça. Amen.
Amen.